Bonjour à tous, bienvenue chez vous. Moi je viens de Vendée, donc plus j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Alors si je mets la bouteille là, on est d'accord de dire que c'est ça commence pas bien. Je suis très très content d'être là, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un très bel événement, donc déjà bravo les orgas, parce que quand même, je fais beaucoup d'événements agiles, et là il y a un mélange, une richesse, c'est vraiment topissime, ça fait super plaisir. De quoi on va parler? On va parler d'apprenance. Et juste pour vous situer très rapidement, ces dernières années, j'ai passé. Alors, il semblerait, j'ai calculé, je crois que j'ai passé plus de 2000 heures à essayer de comprendre les individus, les interactions, en allant rencontrer des scientifiques, des philosophes, des poètes, des machins. Parce que je suis dans l'agilité depuis 10 ans et très vite, je me suis rendu compte que l'agilité, c'était super cool, mais quand on parlait d'individus et d'interactions, ah, il se passait autre chose. L'agilité ne nous donnait pas tout, en fait. Des tensions, des incompréhensions, des machins. Donc, j'ai été interrogé des tas de gens. Et grâce à plein d'organisateurs de plein d'événements, j'ai pu faire un truc qui s'appelle le projet Aristote, dans 16 événements sur 18 mois, aller à la rencontre de tas de gens qui m'ont permis de rencontrer encore plus de scientifiques, blablabla, blablabla. C'est la première fois, en fait, que je vais raconter ce que j'ai appris durant toutes ces années, toutes ces études, toutes ces recherches. Donc merci beaucoup à AgileCamp, au printemps Agile, de permettre ça. Et pour ceux, parce qu'en plus il y a plein de confs qui sont super intéressantes en parallèle, donc pour ceux qui seraient intéressés par le format réduit de cette intervention, il se trouve que, et l'histoire est vraie, la semaine dernière, je rencontre un universitaire qui au Japon, enfin pas au Japon, mais lui il enseigne au Japon, etc. Et il me parle d'un mot, et le mot résume tout. En un mot, des milliers d'heures de travail, des machins, des bidules, etc. Fantastique. Donc pour ceux qui sont intéressés par la version courte, je vous livre le mot, comme ça vous pouvez partir, faire autre chose, profiter du soleil, aller voir d'autres confs, etc. Donc c'est intéressant, hein. C'est pas mal. Donc voilà, le mot qui résume tout, mais avant, teasing. Merci aux partenaires sponsors. Enfin, véritablement, c'est grâce à... Alors, Canoma Tribu, c'est le fond, hein. On ne sponsorise pas. Excusez-nous, je me rends compte là. C'est le nom de la boîte. Région Normandie, ouais. Si tu vois pas, faut retourner. Ouais. Oui, région. Non, Bosch ou Forestia. Non, mais merci à eux qui permettent tout ça. Et eux aussi, parce que vous avez plein de sponsors. Le mot qui résume tout, c'est celui-ci. Donc voilà, si vous avez. Voilà. Donc pour ceux qui se disent ah bah super, voilà. On m'a dit qu'il y a plein de profs, hein, donc comprenez. Alors pour les 3-4 qui ne savent pas lire le sanskrit, bon je pense que vous connaissez tous, hein, vous demandez aux voisins ce que c'est. Non? Ah. En fait, ce que j'ai appris, c'est que tout est une histoire d'apprendre. Tous les problèmes d'individus, d'interaction, machin, tout c'est apprendre. Si on sait ce que c'est apprendre, on apprend des tas de trucs. Enfin, on comprend des tas de trucs. Et donc, ce mot a un lien direct avec ce truc-là. Et donc, je vous invite, en fait, alors, dans un premier temps, à dire bonjour, et dans un deuxième temps, à discuter avec votre voisin en vous disant, ça, c'est quoi la traduction du mot pour vous? À votre avis, c'est quoi le mot qui permet de tout comprendre dans les interactions et les individus, et dans ce côté, comment on apprend? Discutez avec votre voisin. C'est quoi la traduction de ce mot? Ouais, je ne vais pas vous faire l'injure de vous le prononcer, vous savez très bien comment ça se prononce. Je reviens après dessus. Allez-y, je vous laisse 2 minutes, vous discutez entre vous, faut trouver la traduction. Est-ce que quelqu'un veut partager ce que vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé une traduction? Plusieurs.
Ouverture, curiosité, partage, au choix.
Quelqu'un d'autre?
Je crois que ça veut dire in vino veritas, non?
C'est possible. Choc des cultures, hein, je rentre pas dans le détail, hein, mais ouais. Choc des cultures. Eh ouais, non, mais je rentre pas dans le détail. J'ai pas le temps, hein, je vais pas vous raconter ma vie, les tas de trucs, c'est pas le but du jeu, c'est pas. C'est pas l'objet. Juste, je vais faire deux petits trucs que j'ai fait pendant le projet Aristote, qui sont deux petits exercices qui permettent peut-être de comprendre 3-4 trucs. Donc il y a des gens qui connaissent déjà, mais pour les autres, ça peut être sympa. Alors je vais passer en mode, comment je peux faire, Kervin, je peux te demander de tenir le micro, si ça t'ennuie pas. Et de faire le pied de perche. Applaudissements pour le pied de perche, Kervin. Tu fais super bien le pied de perche. Alors, je vais vous demander... Hop. En plus, c'est un pied de perche dynamique, automatique. Je vais vous demander tout, s'il vous plaît, de vous lever. Et vous allez faire exactement comme moi, exactement les mêmes gestes. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je lui demande de faire, il interrompt tout et il me dit « Je ne comprends pas, ton message n'est pas clair. » Ça marche ? Ok, vous allez tous tendre les mains. Interrompez-moi dès que vous êtes perdu. Vous tournez les mains comme ça. Vous croisez. Ok, tout va bien. Vous allez refermer à ce moment-là. Alors attention, concentration, le pouce de la main gauche est en dessous de l'ensemble. Vous refermez les doigts et vous inclinez légèrement sur votre droite pour faire apparaître un joli petit escargot. Vous levez deux doigts de votre main gauche pour faire apparaître un joli petit escargot. Alors j'ai eu le bonheur de faire ça devant des centaines de personnes et il y a des gens, alors comme vous madame, pardon, hein, qui mettent la tête de l'escargot un peu vers le bas, mais il n'y a pas de problème. Donc vous allez vite refermer le tout pour cacher l'escargot et puis vous allez ouvrir tous les doigts pour faire apparaître un joli petit hérisson. Comme c'est poétique. Vous refermez le tout. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre sous un toit l'escargot et l'hérisson. Donc vous allez faire une pierre avec vos doigts, on va faire un toit en pierre, et vous allez serrer très fort les doigts, très fort, serrer très fort, il faut faire une pierre extrêmement solide. Et vous allez lever pour construire le toit, là je passe le micro de l'autre côté, hop. Et vous ouvrez le toit de la maison. Ah. Bon, ouais, pas grave, on va faire plus simple. Voilà. Bon, on m'avait pas prévenu que c'était comme ça à Caen, ok. Je vais faire plus simple du coup. Je vais compter jusqu'à 3. Ensuite, je vais dire go. Go. Et quand je dis go, vous tapez dans les mains. Et je vais m'assurer que vous ayez compris. Est-ce que quelqu'un peut reformuler ? Quand je dis go, vous tapez dans les mains. C'est bon ? Ça va aller, là ? 1, 2, 3. Ok, ok. Merci, Kervin. Eh ben, c'est pas grave, on va le faire quand même. Hein. Est-ce que quelqu'un veut me raconter comment il se sent, là, ce qu'il a ressenti pendant ses expériences ? Involontaire. Help me! Super, merci. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Ben je me suis ressenti bête, mais pas seul.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai rien capté. Enfin, sur le premier tour. Sur le premier... exercice, j'ai rien compris de ce qui s'était passé chez toi.
Quelle conclusion tu pourrais en tirer ?
Qu'il y a un tour de passe-passe. Non, ou que j'ai pas bien suivi les instructions. C'est-à-dire que j'ai fait j'ai interprété des choses à outrance qui font que j'ai pas dû suivre exactement les instructions.
Ouais.
Parce que c'est ce qui s'est passé aussi après avec un 2-3 go.
Oui.
Puisque là, c'est plus par mimétisme en fait que j'ai fait les choses plutôt que de réellement écouter les instructions.
Ok. Est-ce que tu saurais me dire quel parallèle, enfin est-ce que tu trouves des parallèles dans la vie un petit peu de tous les jours ? Est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait se produire la même chose ?
Bah, y a sur beaucoup, beaucoup de choses, on est en mode 100% automatique. Enfin, oui, oui, je pense notamment au code de la route ou des choses comme ça. Je pense qu'une fois qu'on est habitué à conduire et qu'on le fait de façon quasi instinctive, enfin, ou automatique, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais je pense que si on devait repasser, enfin, dans mon cas, le permis de conduire aujourd'hui, je passerais un certain temps, quoi.
Et est-ce que dans les classes, dans les entreprises, tu vois aussi des parallèles avec ça ?
Oui, souvent des instructions qu'on peut donner qui ne sont pas appliquées comme on les a écrites. Et le sens inverse de ça, c'est que des fois, en le montrant par l'exemple, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'en finalement, en montrant comment il faut le faire ou en faisant quelque chose qui est beaucoup plus visuel et beaucoup plus format tuto ou un truc comme ça, ça peut être un moyen de rendre la chose plus applicable.
Ok. Et du coup, comment tu pourrais faire différemment alors ?
Ah.
Ouais, non, mais t'as bien fait de prendre le micro.
Ouais,
hein.
J'ai bien fait. Comment je pourrais faire différemment ? J'en sais rien. Soit en rendant les choses plus graphiques, plus explicites, plus documentées, mais de façon visuelle. Sinon, je ne sais pas.
En y allant pas à pas, et prendre un petit peu plus de temps, peut-être. Partir du connu pour aller vers la nouveauté.
Ok. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est « et maintenant ?»
Ouais, on continue. On fait un troisième exercice encore plus nul. On va voir si on y arrive.
Alors, j'ai envoyé des petits messages ces derniers jours et j'ai demandé aux orateurs qui venaient, etc., de venir jouer un petit peu avec moi. Donc, je lui ai demandé s'il y en a quatre qui peuvent venir remplir les chaises, là. Alors, évidemment, ils ne savent pas ce qui va se passer. Évidemment, sinon, c'est pas drôle. Sauf, vite fait, Kervin, parce que hier, on s'est pris une bière. Donc, voilà, évidemment, au bout d'une bière, on s'est causé. En fait, ce que je vais vous demander, après vous aurez l'occasion, les autres, on va faire ça plusieurs fois. En fait, je vais vous donner 4 minutes où je vais vous donner les deux micros, vous allez causer, et je vais vous demander, par rapport à ce qui est ça, un peu ce que j'ai appris ces dernières années, et ce que j'ai appris moi. Donc ça, c'est un truc très important, c'est pour ça que je me suis permis de mettre mon nom en bas. C'est ce que j'ai appris moi. Pour que vous compreniez, ça, il y a quelques années, j'étais plutôt dans la deuxième partie de la phrase, peut-être par exemple plutôt à récompenser les résultats, et j'ai appris qu'il fallait mieux célébrer l'effort. C'est comme ça qu'il faut lire un peu ce manifeste. Et du coup, ce que j'ai envie de vous demander, alors déjà, est-ce que vous arrivez à lire d'où vous êtes ? Si c'est pas trop, bah, rapprochez-vous, il n'y a pas de problème, ou mettez-vous debout, hein. Enfin, je vous ai mis assis pour que vous soyez bien, mais n'hésitez pas à venir ici. Et soit vous posez une question par rapport à un truc qui vous interloque, soit vous nous racontez, bah moi tel truc, ouais, effectivement, je l'ai déjà expérimenté, je le mets en place et compagnie, ou soit vous reformulez avec vos mots à vous. Donc je vous donne un et deux micros. Merci beaucoup. Et je vous donne 4 minutes.
Alors, pour ce qui me concerne, moi, j'ai noté déclencher des émotions plus que déclencher de la motivation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'effectivement, on en a fait un petit peu l'expérience. Tiens, elle est partie, Claudine. Claudine, notamment, a fait simuler, j'irais, dans différentes postures, dans le cadre de la chasse au trésor, simuler l'expression d'une vision de la mission, et quelque part, effectivement, déclencher des émotions dans l'entreprise est beaucoup plus efficace de vouloir déclencher la motivation, parce que la motivation, ça se déclenche pas, en fait. Elle ne naît comme la confiance que de ce qu'on peut ressentir et vivre. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette phrase-là.
Moi, je peux vous proposer un petit exercice. Est-ce que tout le monde connaît les jours de la semaine ? Alors, ce que je vais vous demander, c'est de réciter dans votre tête donc les jours de la semaine en commençant par le dimanche, voilà, à mon top. Et quand vous avez fini, vous vous levez. Top. C'est bon pour tout le monde. Merci. Maintenant, en fait, on va faire exactement le même exercice et vous vous rassérez quand vous aurez fini l'exercice. Donc, vous allez répéter les jours de la semaine dans votre tête, en commençant par dimanche, mais juste en les classant par ordre alphabétique. Top. Merci. Donc, moi, la phrase que j'ai beaucoup aimée dans le... derrière la bouteille, c'est entremêler les apprentissages hein, plutôt que de les empiler. C'est le fameux « et si ». Tiens, on fait ça comme ça et on fait ça aussi. Et si on entremêlait, qu'est-ce que ça donne hein, le côté un peu savant fou, des fois on mélange. Et très souvent, vous savez les jours de la semaine, vous savez trier, mais vous ne l'aviez jamais fait. Et là, vous avez ressenti en fait ce qu'on... Ce qu'on fait quand on fait la conduite du changement, c'est cette espèce de faux départ. C'est ah mince, c'est pas comme ça qu'on le pensait. Et donc ça, c'est il faut apprendre à désapprendre en fait. Et donc trouver la méthode. Et une fois qu'on a la méthode, on y arrive.
Moi, je trouve qu'il y a un mot qui est absent et j'essaie depuis tout à l'heure de chercher où est-ce qu'on pourrait le glisser. C'est le mot amour. Je veux dire, il y a beaucoup de disciplines qui contiennent le radical Sophie, et Sophie en grec c'est l'amour. Et c'est vrai que je trouve que finalement on parle beaucoup d'apprendre, mais c'est déjà une grosse pression d'apprendre, parce que finalement quand on part dans une démarche et qu'on se met déjà la barrière d'apprendre, on se donne déjà un objectif, et parfois on pourrait se trouver un petit peu bloqué par le fait que qu'est-ce qui se passe si j'apprends rien en fait, et qu'est-ce qui se passe si je me trompe. Donc je pense que le premier levier de motivation dont on parlait, c'est déjà simplement susciter l'amour d'apprendre. Après, je veux dire, on apprend pas, et peut-être qu'on peut faire le constat qu'on a rien appris, et qu'en faisant le constat qu'on a rien appris, en définitive on va réaliser qu'on a appris quelque chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un point de départ autour de l'amour d'apprendre, et voilà, je sais pas où le caser là comme ça, mais je vous livre ma réflexion. J'aimerais bien voir apparaître le mot amour quelque part.
Moi, je vais parler d'apprendre ensemble plutôt qu'être le meilleur. En fait, j'ai longtemps voulu être la meilleure, parce que dans le sport notamment, que j'ai pu pratiquer à haut niveau. Et voilà, cet esprit de compétition, de toujours me mettre moi en avant. Et en fait, j'ai appris dans l'intelligence collective, j'ai appris à ravaler un petit peu cet ego et à ne plus avoir raison. Et c'est assez difficile hein, de changer comme ça d'état d'esprit. Et en fait, aujourd'hui, je suis assez fière de m'être mise au service finalement du collectif. Plutôt que de moi-même me mettre en avant. Et j'ai complètement retourné cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, j'essaye de coacher des gens, de les aider à eux-mêmes trouver des solutions qui soient les meilleures pour eux-mêmes et à ne plus me mettre en avant. Donc ça me parle beaucoup, cette phrase.
Si tu me permets, j'ai un deuxième retour à faire. Tu mets... 30 secondes. Alors tu mets récolter du feedback. Moi, il y a une maxime à laquelle je crois beaucoup qui est qu'il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Donc avant de chercher à récolter du feedback, je pense que la première chose, c'est d'en donner. Donc si on en donne, on en récoltera a fortiori ou peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est important, plus qu'en recevoir, c'est déjà d'en donner.
Merci à vous. Vous êtes prêts au jeu. Donc je vous invite à rejoindre Laurent, puis après si vous avez envie de revenir la tournée d'après, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vais vous inviter à faire, donc vous allez repartir avec votre nouveau camarade de jeu de la session, vous allez retrouver quelqu'un, et en fait je vais vous donner un peu plus d'une minute pour, là je vous ai invité à me poser éventuellement des questions, pour échanger entre vous sur dans tout ça, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses en fait? Est-ce que ça vous inspire des questions? Est-ce qu'il y a des trucs que vous ne comprenez pas? Et essayez, enfin échanger avec votre voisin, pendant une minute trente, comme ça, à chaud, sur, tiens, ça m'inspire telle question. Je vous laisse partir. Quand le tchout retentit, ça veut dire qu'il ne reste plus que 30 secondes. Et le tchou-tchou, c'est terminé. Alors, je vous invite, en fait, les questions que vous avez échangées, je vais vous donner 2 minutes et vous allez trouver quelqu'un d'autre dans la salle pour lui poser la question. Et en 2 minutes, vous allez partager vos questions et vous allez essayer de répondre à cette question qu'on vous pose. Venez avec votre question et venez récupérer une réponse. Je vous donne 2 minutes. Et j'invite 4 autres personnes, s'il vous plaît, à rejoindre les chaises. Alors, plutôt des orateurs pour des raisons de droit d'image. Des gens qui étaient orateurs aujourd'hui. Si vous voulez bien rejoindre les chaises, ceux qui le souhaitent. Ceux qui sont passés peuvent repasser si vous le souhaitez. Si d'autres personnes veulent participer, vous pourrez, mais il faudra passer pour signer une petite décharge pour le droit à l'image, vu que c'est filmé. Le prochain train embarque 2 voyageurs. Allez, Estelle, en route. Même principe, vous avez le droit de me poser une question ou vous raconter ce que ça vous évoque, comment vous le mettez en œuvre ou comment vous le metteriez en œuvre. Bref.
Excuse-moi, tu peux me répéter la question ?
Alors, soit tu me poses une question par rapport à tout ça, je fais, tiens, ça me surprend quand même, je ne fais pas comme ça. Soit tu me dis, bah oui, moi je fais déjà ça et du coup je le fais comme ça concrètement. Ou alors tu reformules pour aider à la compréhension de, tiens, ce truc-là, je le lis plutôt comme ça. Tout comme on l'a fait avec le côté amour, moi il me manque l'amour, ah, c'est peut-être de l'émotion. Ok, c'est un point de vue.
Moi j'ai une question. Ou une interrogation plutôt sur la première phrase, chercher une solution plus que trouver la solution préétablie. Il y a un peu comme tout à l'heure avec l'amour, moi il y a un mot qui me manque, c'est problématique. Je pense que si enfin, est-ce que déjà comprendre une problématique avant de chercher une solution, c'est pas déjà un apprentissage fort?
Alors, je vais tâcher de vous rendre ce que des scientifiques blablabla m'ont raconté. Hein. C'est pas forcément mon point de vue, j'essaie de vous restituer ça. Ce qui est derrière cette phrase-là, ce que j'ai essayé d'y mettre, c'est de se dire, moi, il y a 10 ans, quand j'arrivais dans les boîtes, c'était les gens voulaient du Scrum, je leur mettais en place du Scrum. Donc, c'est le côté solution préétablie. Et du coup, mea culpa, j'ai enseigné à des gens à faire du Scrum et je suis arrivé avec une solution préétablie. Je leur ai pas appris à chercher par eux-mêmes la solution. Donc c'est cette préférence-là. Et du coup, dans ma perception, je ne crois pas que ça n'exclut le fait qu'on a identifié une problématique. C'est justement, j'ai une problématique. Est-ce que je vais trouver sur le marché une solution préétablie, clé en main, qui répond à mon besoin? Et sans doute que des fois, c'est OK. Ou est-ce que je vais faire l'effort par moi-même d'aller trouver ma propre solution? La réponse des scientifiques là-dessus, elle est super claire, on n'est pas en capacité de comprendre une solution préétablie. On en est là. On n'est pas capable de tout se comprendre, que ce soit Scrum, machin, bidule, etc. Ça n'existe pas, le fait de se mettre d'accord sur une solution préétablie. Donc, c'est une contrainte. On est obligé, même si on veut faire arriver au même résultat, à faire un cheminement individuel des apprenants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tous tendre vers la même solution, et vers peut-être un truc qui s'appellerait Scrum, pourquoi pas. Mais ce que j'ai pu apprendre, c'est que quand j'étais à l'école, il y avait quelqu'un qui incarnait le savoir, et on essayait nous d'être le modèle. Ça voudrait dire qu'on rentre dans une synchronicité de synapses et compagnie, machin, etc., qui n'est juste biologiquement impossible, en fait. Donc, voilà, c'est juste là, ce point de vue de scientifique. Et de toute façon, même si on cherche à installer une solution préétablie, ça ne marchera pas. Il faudra faire un cheminement qui fait que là, même si c'est pour découvrir quelque chose qui paraît préétabli, il faut faire un cheminement individuel. Merci pour la question.
Ah oui, bah, En fait, pour le même sujet, c'est pour ça que moi j'aime bien la phrase sur explorer. J'aime bien explorer et sans savoir forcément où on va, parce qu'en plus ça implique une activité. J'aime bien faire en sorte que cette exploration soit un travail de groupe, d'équipe. Voilà. Et où est-ce qu'on va aller ? Je ne sais pas. Nous, on ne sait pas. Le groupe ne sait pas. Mais il emprunte un voyage et l'expérience, ça va être là. Et c'est dans cette exploration, je pense, qu'il va y avoir le maximum d'apprentissage. Voilà. Donc j'aime bien ce truc-là. Et puis un deuxième truc, tu posais la question par rapport aux apprentissages de l'année. Pour moi, c'était sur la problématique de la cohérence. Cohérence entre qui je suis moi et par rapport au travail qu'on me demande de faire ou que je réalise. Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis capable d'assumer ce que je dois faire? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Alors moi, c'est quelque chose qui est important à faire ressortir.
Alors, de mon côté, alors, j'arrive pas à situer dans quelle phrase, mais j'avais envie de partager le projet Aristote. Dans la classe dans laquelle j'enseigne cette année, les CE1, CE2, on a commencé l'année par jouer à 1, 2, 3 go. Et ça a été l'occasion d'apprendre, mon premier apprentissage, alors, se donner le droit à l'erreur, donc, et se le dire, le redire collectivement. Donc on a le droit à l'erreur et on va apprendre. On va regarder comment on apprend, donc la première chose. La deuxième, c'est l'occasion aussi de se dire « Ah oui, alors j'ai très envie de taper dans la main en même temps les mains, en même temps que la maîtresse, mais il faut que je freine mes mains. » Donc il faut que mon cerveau dise à mes mains de ne pas faire. Enfin, donc pour eux, de visualiser, de conscientiser ce qui se passe quand j'ai envie de bavarder, j'ai envie de me déplacer ou j'ai envie de courir dans le couloir pour être le premier à la porte. Donc voilà, conscientiser toutes ces choses-là. Et c'est devenu aussi le jeu avec lequel on accueille les invités. Enfin, dans la classe, il y a régulièrement des stagiaires qui viennent observer ou quoi. Donc, en général, c'est l'occasion. Hey, quand ils vont venir, on va jouer à 1, 2, 3 go. Et là, c'est chouette, nous allons piéger des adultes. Ça marche, hein. Et ça marche à tous les coups. Presque, on n'a pas réussi. Grosse déception à piéger le directeur. Il a été très malin. Ça a été aussi, par contre, ça a été aussi l'occasion pour moi de voir selon qui mène le jeu, qu'est-ce qui se passe. Ils étaient, justement, quand le directeur est venu, il a pris la main après. Donc, ils étaient quasiment tous, c'était quasiment tous bons pour tous. Ils arrivaient à maîtriser leurs mains, à ne pas taper en même temps que moi, mais au moment du go, quand le directeur a pris la main, pouf! De nouveau, l'apprentissage fait trois pas en arrière. Avant qu'ils y arrivent tous, un élève a pris la main. Là, ils y arrivaient. C'était plus facile de ne pas suivre le camarade et d'appliquer la consigne. Voilà, ce jeu a été une mine et surtout un moment de conscientiser ce qui se passe dans le cerveau et de devoir s'arrêter.
Il paraît qu'il faut que je parle plutôt dans celui-là. Tu me fais une transition parfaite. Ce que j'ai appris aussi avec ces gens-là, c'est que notre capacité d'attention est super limitée, donc il faut aussi savoir décrocher. Et il n'y a pas besoin de décrocher 3 heures. Donc je vais vous donner une minute, et pendant une minute, allez discuter avec quelqu'un de choses qui n'a rien à voir. Racontez-vous des blagues, dites-vous qu'il fait beau, dites-vous comment vous appelez. C'est parti pour une minute, décrochez votre cerveau de tout ça, aérez le cerveau, sinon je vous perds. Ouais, les pauses, c'est pas forcément 15 minutes. Une minute, ça suffit largement. Largement, vous avez recréé tout ce qu'il faut, c'est reparti. On est prêt à repartir. Est-ce que j'ai encore 2-3 courageux qui veulent venir partager? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai 2-3 personnes encore? Et ça peut être les mêmes, hein, si vous avez d'autres trucs à raconter. Ou d'autres personnes du public qui viendraient partager. En passant par la case après, je suis OK pour que mon image passe sur CNN demain ou soit revendue à des titres, à des fins commerciales douteuses. Un courageux, d'autres courageux peut-être, c'est mieux discuter au moins à deux. Ah bah c'est parti, merci. C'est parti pour 4 minutes.
J'ai une anecdote sur ce que tu disais tout à l'heure, le respect des règles, des règles du jeu. Alors, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, j'avais un événement qui devait se passer dans mon entreprise. L'événement avait lieu entre l'agence de Nantes et l'agence de Rennes qui ne se connaissaient pas. Donc j'ai voulu faire un petit jeu d'icebreaker pour que les gens puissent échanger. Je me suis dit, j'ai demandé aux 7 autres agences qui existent dans ma boîte de m'envoyer des cartes postales. Alors j'avais fait, la règle était claire, j'ai écrit le même mail à 7 personnes, donc une dans chaque agence, et j'aurais demandé, j'aimerais que vous m'envoyiez 3 cartes postales qui soient représentatives de votre lieu, alors sachant qu'il y a Montréal, Singapour et puis quelques villes aussi en France. Et puis, je voudrais que vous le fassiez signer par les gens de votre agence, ou des petits mots, des petits dessins, des trucs sympas. Et puis, vous m'envoyez ça chez moi, donc j'aurais donné mon adresse, et puis avant telle date, la date de l'événement. Au final, j'avais donc cette agence que j'avais contactée. J'ai reçu, de la part de Grenoble, 3 cartes postales identiques, avec des petits mots derrière, adressés chez moi. Très bien. De la part de Singapour, j'ai reçu une carte postale qui contenait des petits origamis, avec rien d'écrit nulle part, et elle est arrivée à l'agence de Rennes. De la part de Paris, j'ai été dû acheter moi-même les cartes postales une fois que j'étais en passage à Paris. Je l'ai donné à une fille qui m'a bien fait remplir à tout le monde et qui m'a envoyé les cartes postales à mon adresse, certes, mais sans enveloppe, ce qui fait que les adresses étaient visibles sur toutes mes cartes postales. J'ai eu de la part de Lille 3 cartes postales, 4 cartes postales, pardon, 4 cartes postales avec rien d'écrit nulle part, arrivées à l'agence de Nantes. J'ai eu de la part de Bordeaux rien du tout. J'ai eu de la part de Lyon des cartes postales qui ne représentaient pas du tout Lyon, mais des petits bonhommes, des animaux. Et j'ai eu de la part de Montréal 3 cartes postales avec juste un mot écrit derrière et personne n'avait signé. C'est pour moi un exemple. Je pense que je vais en faire une conférence un de ces jours.
Moi, ce qui me perturbe, enfin, ça me perturbe pas spécialement, mais ce qui me marque, c'est ce qui n'est pas marqué justement. C'est, on a l'impression que c'est déjà dans un état d'esprit de je peux apprendre. Et ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a déjà une barrière avant même ça. C'est comment j'apprends ou quoi. C'est est-ce que je suis capable d'apprendre. Et ça dénote d'un certain état d'esprit. Alors, il y a un bouquin de Carol Dweck qui est très intéressant là-dessus sur le, en gros, qui distingue l'acquis de l'inné et dire, voilà, on peut avoir un état d'esprit d'apprentissage constant, ou alors se dire, c'est fixé, je ne pourrais pas m'améliorer dans ça, j'ai atteint ma limite. Et ça dénote vraiment, enfin, tout ce qui est marqué là, où j'adhère 99%, on va dire, ça dénote déjà un état d'esprit de je peux apprendre constamment, tout le temps, vraiment tous les jours, à chaque instant. Et c'est ça le plus important, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de questions, du coup.
Je me permets de rebondir. En fait, il y a différents types d'apprentissage. Ce qui est très, enfin voilà, le terme apprentissage, c'est pas un truc, c'est pas un mécanisme qui correspond. On apprend à faire des tas de choses en permanence. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que quand je dis apprendre, je suis en train de faire un apprentissage. C'est un peu le chapeau de mon truc. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est un apprentissage. Le bouger le bras est un nouvel apprentissage, même si j'ai appris à le faire 1 milliard de fois avant, je sais le refaire parce que, et en fonction de ce que j'ai appris avant, je suis en train de me réadapter à un moment donné. Alors je ne rentre pas dans les détails scientifiques, parce que ce n'est pas le propos, je ne suis pas un scientifique, mais pour que vous compreniez rapidement le mécanisme, toutes vos pensées, vos gestes, vos machins, la mémoire, ce n'est pas un truc qui est ancré et dans lequel on va faire un rappel, c'est un principe où... Allez, on va utiliser 3-4 gros mots. Au niveau de l'hypothalamus, vous allez recharger en fait les informations qu'on trouve un peu partout dans le corps, notamment dans le cerveau. Et en même temps, vous avez un contexte autour de vous. Donc il y a des tas d'infos qui viennent en fonction de ce qui se passe et de ce que j'ai besoin d'apprendre ou de dire ou de faire. C'est un mélange entre tout ce qui se passe autour et ce que j'ai repris. Donc il n'y a pas de mémorisation comme sur un disque dur. C'est on remet quelque chose dans un contexte donné, on recharge dans un instant donné à un instant donné. Et du coup, en disant apprentissage, dans ce nouveau contexte, je vais réancrer potentiellement, si le facteur est favorable, dans mon cerveau, cette nouvelle façon de dire apprentissage. Je vous donne une petite anecdote. J'ai vécu pendant très longtemps avec une espèce de méfiance un peu avec tout ce qui était psy, je ne sais pas trop quoi, parce que étant petit, j'avais un voisin qui était psy, qui s'occupait de personnes âgées dans un hôpital psychiatrique, et qui m'avait expliqué très petit que son job, en fait, c'était de faire entrer des personnes âgées dans son bureau, de les faire parler, et pendant ce temps-là, vu qu'il aimait le tennis, il regardait tous les grands chelems dans un petit coin de son tiroir. Et là, je me suis dit, quand même, cet homme, qui était très sympa, hein, il faisait pas ça tout le temps, des fois, il faisait du golf. Et je me suis dit, quand même, ce métier est un peu particulier. Ce que j'ai appris ces dernières années, en fait, c'est que, c'est super utile. Parce qu'il met les gens dans un cadre qui est rassurant, il leur fait parler de leur traumatisme, et donc, il recharge, en mémoire, on va dire, dans leur hypothalamus, ce souvenir douloureux. Mais comme il le fait dans un cadre, en fait, qui est plutôt bienveillant, confortable, etc., ce qui va se réancrer dans le cerveau, c'est ce souvenir un peu douloureux, mais un peu édulcoré. Et du coup, j'ai pu aller dans certaines cliniques et voir qu'il y a des programmes où, en 10 séances comme ça, étalées dans le temps, ils sont capables de traiter, je sais pas, les gens qui étaient au Bataclan, ce genre de choses, et d'avoir des vrais résultats intéressants. Donc, ce n'est pas super idéal, mais rien qu'en faisant reparler les gens dans un contexte d'une difficulté, rien que de les faire parler, va les aider en fait à reconstruire une image positive. Voilà, beaucoup trop parlé.
Voilà, moi la phrase qui m'interroge, c'est le entremêler les apprentissages. Alors peut-être que dans entremêler, j'ai vu mêler. Autant je comprends faire des apprentissages, les appliquer, donc les répéter. Les entremêler, est-ce qu'il n'y a pas le risque de la confusion de les entremêler? Je préférerais le terme combiner les apprentissages. Donc pourquoi entremêler?
Alors c'est une très bonne question, hein, merci de l'avoir posée. Alors ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on apprend d'entremêler les apprentissages. Donc ça, c'est très clair. Si vous entremêlez les apprentissages, c'est beaucoup plus difficile. On va jouer de temps en temps avec des profs et ils nous racontent, non mais les élèves, ils aiment bien qu'on leur apprenne ça. Après ça, sinon c'est trop compliqué, c'est trop d'efforts. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts. Mais il faut encourager l'effort, célébrer l'effort, parce que ça marche beaucoup mieux. Alors je vous le fais très court. Tout notre mécanisme, en fait, c'est créer des liens dans le cerveau. Donc si tu apprends un truc dans un coin, tu vas créer certains liens. Si tu apprends d'autres trucs après, tu vas créer d'autres liens, mais tu ne vas pas forcément faire le lien dans l'ensemble. Je te dis comment concrètement je suis en train d'apprendre les signes, les additions, etc., ma petite fille qui a 2 ans. On va sur la plage, je fais un grand cercle, et je mets, alors pour l'instant, on est à 8 coquillages. Et je mets les 8 coquillages. Et je lui dis, là, si tu as 4 coquillages d'un côté et 4 de l'autre, maintenant, elle sait compter jusqu'à 10, tout va bien. 4 là et 4 à côté, les uns plus les uns. Qu'est-ce que ça fait, ça? Et là, je lui apprends l'addition. Je ne suis pas en train de lui apprendre le 4 plus 4, je suis en train de lui apprendre l'addition. Si je lui dis, écoute, là, il y en a 8, et je t'en enlève 3, combien il en reste? La multiplication, c'est 4 fois 2. Donc, on est 4 personnes, on est à 2, et pareil avec la division. Si on est papa, maman et le grand frère, il y a 8 coquillages. Si on les sépare, tu vois, physiquement comme ça, qu'est-ce qui reste pour chacun? Et du coup, elle manipule. Et en fait, du coup, entremêler l'apprentissage, c'est se rendre compte que finalement, on est en train de parler d'un ensemble d'éléments qu'on est en train de manipuler, et que finalement, additionner, diviser, machin, bidule et compagnie, c'est un peu la même mécanique. Alors que si elle avait appris, je fais mes additions, etc., etc., c'est plus compliqué. Alors par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le but du jeu, c'est pas de lui apprendre comme ça les tables de multiplication 9 fois 9. C'est que tu vas lui apprendre au début à faire des trucs avec 1 et 2. Et donc, entremêler et répéter, ça serait de dire, j'apprends à faire avec peut-être le 1 plus 1, le 1 moins 1, etc., etc. Et après, je vais passer à 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ma compagne est prof contractuelle depuis l'année dernière. Elle a essayé de le faire, c'est pas simple. Parce que je sais ce que c'est que les profs. Vous avez un programme super comme ça. Une heure de cours, c'est une séance. Et si on passe à côté, c'est compliqué. Et ce qu'elle essaie de faire maintenant de plus en plus avec beaucoup de résultats, c'est qu'elle essaie de leur donner un maximum d'infos à aller chercher sur les trois. Enfin, elle regroupe en fait trois séances et elle donne tout dès la première séance. Mais elle ne demande pas à ce qu'elles connaissent tout. Ils vont s'approprier le contenu des trois et elle répète ça trois fois. Et ça marche beaucoup mieux. Parce qu'en plus, on a le temps de revenir. Et ça, notre cerveau, il a besoin de ça, en fait. Il a besoin de temps. Donc, le fait de... Alors, c'est plus compliqué, parce qu'il faut prendre plus de concepts d'un coup, mais c'est beaucoup plus efficace dans le fait de mémoriser les informations. Mais c'est plus compliqué, ça demande de l'effort. Et ça, c'est sûr. Alors ça, c'est une claque pour moi, coach agile, hein, où pendant des années, je pensais qu'il fallait qu'on amène du bonheur et que ça allait être cool et machin. Les scientifiques m'ont raconté, si les gens ne transpirent pas un peu, ils n'apprennent pas. Donc ça demande un effort, ça demande de l'attention, il faut y aller. Quoi. Et donc il y a un peu ce côté, donc un effort raisonnable, mais il faut quand même qu'il y ait un effort. C'est un peu, sans aucun jugement, ce que je crois constater parfois dans l'éducation nationale, c'est que comme c'est difficile, on a tendance à renoncer, et on voit que le niveau est en train de tomber, parce que comme ils n'y arrivent pas, on ne le fait pas. Ouais, mais comment on fait pour les mettre en scène? Pour qu'ils fassent l'effort de venir et d'apprendre. Ce petit format que je vous propose aujourd'hui, là, peut-être vous pourrez Voilà, je me suis dit, plutôt que vous raconter en théorie, on va faire comme peut-être on pourrait faire. Je fais mes formations comme ça maintenant. Hein. Je raconte plus aux gens ce qu'ils doivent penser, je leur affiche, je leur donne les trucs, et après on discute, je les fais reformuler, ils posent des questions, ils font les trucs et les machins. Et bizarrement, ça marche mieux. Oui, Kervin.
Moi, un de mes plus gros apprentissages sur le projet Aristote, c'est justement explorer de nouveaux points de vue plutôt que s'adapter au point de vue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le point de Mariotte ? En fait, c'est dans votre œil, c'est le point où est connecté votre nerf optique. Donc en fait, votre rétine est tapissée de capteurs photosensibles, hein, et il y a un endroit où il y a le nerf optique, il n'y a pas de capteur. Donc logiquement, on devrait tous avoir deux points noirs devant les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux points noirs devant les yeux ? Sinon, il faut consulter. Hein. Et donc le point de Mariotte, ça nous apprend un truc, c'est que quasiment 70% de ce qu'on voit, c'est une interprétation de notre cerveau. C'est-à-dire que déjà, il comble le point de Mariotte, et puis en fait, on interprète tout ce qu'on voit. Et ce qui fait que très souvent, même si on fait du management visuel, ou on rend les choses visuelles, eh bien du coup, il y a quand même une possibilité d'un point de vue différent et donc aller creuser et ce que je vois n'est pas la vérité et peut-être que le point de vue différent voit autre chose. Donc ça, c'est le plus gros apprentissage sur le projet Aristote, merci. Sortir de la posture de l'expert et puis se dire, oui, il y a peut-être des points de vue qui sont plus intéressants que le mien ou qui voient autre chose, voilà, qui ont un autre point de Mariotte.
Merci pour ce point de vue. Eh ben, je vous encourage à rejoindre. Merci beaucoup pour ces différents échanges. Le point de vue de différentes personnes, ça aide à ancrer le truc. Donc, si vous avez des gamins dans les classes, etc., ou quand vous faites des formations, demandez aux gens de raconter en permanence. Ce qu'il faut retenir, en fait, truc un peu de dingue, c'est quand quelqu'un mémorise, justement avec le mécanisme que je vous ai raconté tout à l'heure, qu'en fait, on ancre plus profondément l'information. Si vous êtes face à moi et que je vous parle, il se passe des trucs à peu près devant, là, pouf, 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 vous chargez de la mémoire de travail et votre cerveau, il va se dire « je dégage, je dégage, je dégage, je dégage ». Ce que je suis en train de vous dire là, le cerveau, dans quelques heures, il va dire « c'était pas utile de retenir le fait qu'il me dise « je dégage ». Donc, par contre, si vous faites, vous, l'effort de remémoriser, donc quand vous reformulez, quand vous posez une question, quand vous essayez d'exprimer aux autres comment vous pouvez le mettre en application, vous faites cet effort, du coup, vous rechargez en mémoire, et là, vous êtes en train d'apprendre. Donc, si vous demandez à un gamin ou à quelqu'un dans une formation de venir réexpliquer aux autres, ça va amener un point de vue différent aux autres, mais surtout, c'est ce gamin-là qui est en train d'apprendre et de consolider l'apprentissage. Donc après, en faisant tourner comme ça les gamins, ils vont tous être dans cette posture, et ça marche très bien. Vraiment, retour d'expérience pour des formations. Alors, moi, je suis coach agile, donc Scrum, Kanban, machin, bidule, etc. Avant, il y a 10 ans, les gens quittaient les deux jours Je me disais, ils ont appris quoi ? Je sais pas. Et ben là, je maintiens les gens dans un truc où ils sont en train de restituer. Et donc, je vois bien au fil du temps ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas. Et ce qui est topissime pour quelqu'un qui dispense une formation, c'est de voir, ah non, là, il est en train de partir pas du bon côté. Donc, je t'invite à aller regarder un petit peu dans les docs tel et tel point de vue. Va creuser le sujet. Je te dis pas, viens pas me poser la question, va creuser le sujet par toi-même. Et au fil du temps, à faire de reformuler, je leur fais faire beaucoup de posters pour qu'ils partagent avec les autres, etc. Tout ça, c'est des efforts d'apprentissage et qui permettent moi de valider en permanence, donc de tester en permanence, donc d'évaluer en permanence l'apprentissage des apprenants. Ce que je vous invite à faire maintenant, ça va être... Alors, on va faire un big bang. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de tous venir sur peut-être 3-4 rangs devant. Comme ça, venez vous installer sur les 3-4 premiers rangs, s'il vous plaît. Pour ceux qui le souhaitent, hein, participer à une petite expérimentation. Et je vais vous demander, sur ces 3-4 rangs, de vous lever, s'il vous plaît. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est vous allez tous regarder par là-bas. Voilà, alors regardez, admirez la nuque fantastique de votre voisin de devant. Et ce que je vais vous demander de faire, alors, on va faire un bonjour. Comment tu t'appelles ? Bonjour, comment tu t'appelles ?
Roselyne.
Est-ce que tu peux rejoindre une rangée ? Sinon, tu vas vivre un moment de solitude. Merci. La bienveillance dans l'apprentissage, c'est aussi une clé. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, ce que vous allez faire, tant que vous ne sentez pas une main posée sur votre épaule, vous ne vous retournez pas. D'accord ? Donc tout va bien se passer, ayez confiance, il ne va rien se passer de terrible. Si vous sentez une main sur votre épaule, vous vous retournez vers moi. Et les autres, alors je n'ai pas dit qu'il faut diffuser, oh là là, la communication ça ne marche pas du tout. Non, 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 alors tous les gens, il y a 4 personnes qui sont autorisées à se retourner. À partir de quel moment je vous ai dit vous qu'il fallait appuyer ? Donc retournez-vous, ne prenez pas l'initiative de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, tant que je ne vous ai pas dit de le faire. Donc les 4 personnes, j'ai 4 personnes là qui sont au bout des fils, à qui je vais transmettre un message de façon visuelle. D'accord ? Vous allez faire une fois que j'ai fini mon message, vous allez appuyer sur la main de l'épaule de la personne devant vous, afin qu'il se retourne, vous lui transmettez l'information, et à son tour... il va mettre la main sur l'épaule de la personne qui est devant et il va transmettre l'information. Ça vous va ? C'est OK pour tout le monde ? Donc vous ne vous retournez pas tant que vous n'avez pas eu le message. Et le message est le suivant. Allez-y. Transmettez. Ça va arriver, hein, pour ceux qui sont au bout, ça va arriver. Donc quand vous êtes en bout de chaîne, vous allez pouvoir comparer avec les autres, hein, évidemment, qualité de la réception. Vous avez tous atteint le bout de chaîne ? En bout de chaîne, vous avez eu la sensation d'avoir à peu près fait la même chose ? À peu près. Je vous invite à vous réasseoir et on va faire comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une personne qui veut bien me dire ce qu'il a ressenti durant cette expérimentation ? Je vous ai vu bouger, non ?
Non, mais
Non, mais c'est parti, merci. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti?
En fait, moi, j'ai trouvé ça drôle. Pardon.
Bah ouais, mais ça fait partie des émotions, hein, de faire rigoler.
Oui, non, oui. C'est pas. En fait, ce qui est pas évident, c'est de pas parler quand on passe le message, justement.
Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé dans notre fil où effectivement, il y a eu vraiment un problème de compréhension en fait du message et c'était marrant. Et du coup, la personne a été obligée d'expliquer avec des mots pour que ça continue.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, là, en fait, je pense qu'elle n'a pas compris le message. Et en plus, quand on est le dos tourné, ça peut former une zone de stress qui fait que ça peut bloquer le processus et se dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, est-ce que je vais me tromper, etc. Je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas la personne, mais voilà.
Quelle conclusion tu tires de ce jeu-là?
Avec le même message porté à différentes personnes, ça dépend de la personne, en fait, qui l'énonce et qui la reçoit.
Est-ce que tu vois des parallèles avec ta vie professionnelle?
Oh oui, oh oui.
Et bah du coup, oui, qu'est-ce vraiment. Que tu ferais différemment?
Chaque consigne est adaptée au collaborateur qui est en face. Pour peut-être atteindre le même résultat, mais on ne parle pas, on ne communique pas de la même manière en fonction des personnes. Donc, alors, il ne faut pas, surtout pas, d'où les mails collectifs, je suis d'accord, qui peuvent faire un truc drôle comme l'histoire des cartes postales.
Qui est-ce qui, dans cette audience, peut se retrouver dans une posture à devoir passer de l'information, apprendre quelque chose à quelqu'un, enfin, peu importe, je veux juste la main. Alors, je vais vous poser collectivement, mais c'est toi qui vas répondre, une question. Est-ce que c'est, enfin, c'est quoi cette histoire de passer de l'information par rapport à ce truc-là? Est-ce que tu es très à l'aise de te dire que tu es dans une chaîne d'information et que du coup tu as pris des informations de quelqu'un que tu vas repasser à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vois un parallèle avec ces histoires-là?
Je ne passe pas un message si je ne l'ai pas compris.
Ah, alors je dis autrement. Est-ce que tu penses qu'on peut encore transmettre de l'information en étant le maillon d'une chaîne d'information?
On est tout le temps un maillon, sauf si on a une idée d'un coup.
Oui, mais est-ce que tu penses qu'on peut transmettre une information en étant encore le maillon d'une chaîne?
Non.
Ou est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas essayer d'imaginer d'autres formats?
Non, je suis d'accord. C'est tout à fait l'exemple type d'une société en silo, entre le message porté par le DG et la réception en bas.
Et du coup, et maintenant? Et maintenant? Je te laisse répondre, et maintenant?
Et maintenant? Non mais oui, le changement de... Mais... Oui, mais encore faut-il que là-haut ça veuille bien, et qu'en bas aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent partager ce « et maintenant » ?
Monsieur, il n'arrêtait pas de dire des choses.
Qui ont un point de vue sur le « et maintenant ». Merci beaucoup.
Oui, bah j'ai un petit point de vue. C'est que là, chacun a transmis l'information à l'autre, mais à aucun moment, on s'est concerté ensemble pour se mettre d'accord sur l'information. Donc moi, le « et maintenant », ce serait d'avoir... une hiérarchie, enfin des échanges plus horizontaux et moins verticaux qui permettent que tout le monde on ait une même qu'on se mette d'accord sur la vision de sur les gestes en fait sur la vision des choses en commun, voilà, et qu'on puisse aussi en discuter parce que là on a refait bêtement sans forcément expliquer à ceux qui on en avait besoin ou voilà.
Super, merci. Quelqu'un d'autre pour un « et maintenant » ? Pas de quelqu'un d'autre. Donc « et maintenant », il est pratiquement l'heure de clôture. Donc quand même, je vais vous livrer deux réponses à deux énigmes. Un, c'était quoi le message qu'on a transmis pour que vous voyez un peu la différence. Et avant, je vais vous donner la traduction de... alors la prononciation, c'est pas ça, hein, mais vite fait, c'est « Paritiadia », mais vraiment vite fait. Ce qui est assez incroyable, donc ça nous vient de la philosophie indienne, pour faire court, voire même de ce que nous, vu d'Occident, on appelle le bouddhisme. qui est marrant, c'est que ce truc-là, traduit en Occident, ça veut dire renoncer. Et véritablement, ce projet m'a appris ça, qu'il faut que je renonce. En fait, je suis parti en me disant, comment je fais pour améliorer ma posture, comment je fais pour que les gens transmettent l'information. Mais ce que m'a appris ce projet, c'est que ce n'était pas la bonne question. Je m'intéressais, ce n'était pas la bonne question que je posais. La question, c'est comment les gens sont en train d'apprendre. On s'en fout de toi. On s'en fout. Donc renonce à essayer d'améliorer ta façon de transmettre l'info. Pose-toi la question, comment les gens sont en train d'apprendre et c'est quoi leurs besoins. Et toi, tu te mettras dans le dispositif après. Et tu trouveras ta posture après. Et donc, j'ai pu discuter de ça. Ce mot m'a été appris par ce prof d'universitaire qui connaît très bien, c'est quelqu'un qui a traduit du sanskrit. Et il me dit, ça, c'est la définition occidentale. La définition pour des orientaux, c'est laisser être. Et ce n'est pas laisser faire. C'est laisser être les individus. Et c'est ce que maintenant j'essaye, quand j'essaye de transmettre des choses, de laisser être des apprenants plutôt que d'être quelqu'un qui essaye de transmettre des messages de façon un peu trop haute. Et maintenant, je vais vous livrer... Alors pour ceux qui veulent creuser le sujet, il y a le manifeste de l'apprenant, j'ai appelé ça comme ça, on s'en fiche. Il y a une petite collection de livres de référence assez monumentale sur le projet. Donc si vous êtes intéressé, allez taper là-dedans. Je voudrais finir par vous faire faire l'exercice, on va tous le faire ensemble, le message qu'on a transmis, qui pour moi est un clin d'œil à quelqu'un qui m'a appris énormément à travers le projet Aristote, qui est ma très chère adorée Esther Cornexel, qui est une experte des outils Tiagi. Et la façon pour elle de finir les conférences, c'est de faire, et je vous demande s'il vous plaît, de vous lever pour faire comme moi, comme Esther. Hop, je monte sur scène, parce que ça vaut le coup d'être mis en hauteur. C'est le message que vous avez transmis, donc je vous apprends rien, hein, vous l'avez déjà eu. Hein. Donc, et on va tourner ça au printemps agile. Si, en sortant et plus tard, on vous dit, alors le printemps agile, comment c'était? Eh bien, le printemps agile, il m'a permis de m'élever, d'ouvrir les yeux. C'était renversant. Et ça m'a touché au cœur. Merci beaucoup pour votre participation.